Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma. Avec les zombies de la critique, j'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, Charlotte Lipinska de Vanity Fair, Michel Simon de Positif et Nicolas Chalère de L'Obs. On parle ce soir de Greta, de Zombie Child, du Dain, de Nevada, de Nureyev, de Tolkien et de Men in Black. À votre demande, je signale d'ailleurs que notre ami Michel Simon vient de publier, je crois qu'on y fera allusion à la fin de l'émission, encore un livre consacré à Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan, titre que j'aime beaucoup, chez Actes Sud Institut Lumière, avec des entretiens que tu as eu nombreux avec Konchalovsky. Dans le courrier de la semaine, eh bien, j'ai été très surpris par l'abondant courrier avec beaucoup, beaucoup d'avis négatifs sur la Palme d'Or de Bong Joon-ho. Mais oui, après Almodovar, maintenant c'est Parasite. Mais oui, c'est ça Michel, le masque et la plume. Pierre Cusor parle de chef-d'œuvre. Ce film est une allégorie de la fin du monde. Philippe Poitier de Paris nous dit « C'est un film magistral dont la mise en scène est un chef-d'œuvre. » Jérôme Duvivier de Lyon trouve Parasite jubilatoire, mais aussi tragique, car il ramène la rupture entre riches et pauvres au niveau le plus intime, une œuvre foisonnante d'idées cinématographiques. Nathan Aznar, qui a 16 ans, et qui n'a pas aimé Sibyl de Justine Triet. D'ailleurs, je garde le courrier sur Justine Triet pour la prochaine émission, parce que j'en ai reçu beaucoup. Juge donc Nathan Aznar, juge au contraire que Bong Joon-ho fait preuve d'une virtuosité de mise en scène absolument admirable, et il parle d'un chef-d'œuvre jouissif. Même chose pour Claire de Rouen, dans quel monde vit Jean-Marc Lalanne pour descendre Bong Joon-ho et trouver sublime le petit film poussif et oubliable de Justine Triet. Certains masques nous plongent décidément dans des abîmes d'incompréhension. Antonin Taureau, qui a 20 ans, qui est un fan de l'émission, parle également de films jubilatoires, terrifiants, drôles, glaçants. Françoise Leclerc, du Pouliguen, trouve les acteurs formidables, l'image belle, les couleurs sublimes, avec les verts flamboyants de la très belle maison et les gris et bruns des taudis. Pierre Selma commence, lui, vous allez voir, le courrier va changer, être beaucoup plus partagé. Ce film est un chef-d'œuvre, mais seulement dans sa première partie. Ensuite, le spectateur anticipe tout ce qui va se passer et les 10 dernières minutes sont une purge avec faux suspense et conclusion mièvre. Martin Vagnoni de Bourges juge également que le film démarre sur les chapeaux de roue. Malheureusement, l'intrigue fait pchit. Tout y est appuyé, désespérément didactique, cruellement prévisible. À l'opposé, Jacques Pellinck a trouvé longuette la première partie de Parasite, verbeuse et démonstrative. Je n'ai commencé à m'y intéresser que lorsque le film bascule dans les abysses de la folie. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ?
Mais non, mais ça dit bien à quel point il y a tout le cinéma
et
dans
puis,
ce film.
Il y a les très hostiles.
Il y en a qui sont hermétiques à un certain cinéma.
Il y a les très hermétiques, comme tu dirais, comme Mona Hamzar. Ce film prétendant être une fable ou une comédie satirique s'essouffle vite. Parasite est un film insignifiant. David Erenval Mallet de Nantes, le premier qualificatif qui m'est venu à l'esprit est balourd. Oh. Bong Joon-ho fait preuve de tout sauf de finesse, style boursouflé, complaisance dans le gore. Tout est appuyé, archi rebattu. Richard Howard trouve les épisodes sanglants à la limite du ridicule et beaucoup d'incohérences scénaristiques. J'ai juste vu un gros navet et une décadence culturelle mondiale au niveau de la presse, des gens et du jury. Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence est interloqué par le concert de louanges que le masque a adressé à Parasite. Certes, Une fois de plus, cette année, la sélection officielle était globalement médiocre. Moi, je suis pas d'accord. Mais la faiblesse de la concurrence ne suffit pas pour faire de Parasite un grand film. Je vais arrêter bientôt, hein, mais il y a encore Philippe de Dieppe qui est accablé et qui soutient que le réalisateur a parasité le cerveau du jury de Cannes et celui des critiques du Masque et la Plume, quand même. Enfin, je vous laissais parler, je clôt le débat, mais entre les auditeurs, sur Douleur et gloire d'Almodovar, parce que j'ai reçu encore plein de lettres, et là c'est Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon, mon masque. Quand ce n'est pas toi qui me fais sortir de mes gonds, ce sont tes auditeurs. Qu'est-ce qu'il leur prend de dézinguer ainsi le dernier film d'Almodovar, alors que c'est sans doute son meilleur, c'est intime et profond, raconté avec finesse et justesse. Chers auditeurs du masque, dit Delphine Blanchard, ressaisissez-vous. Alors moi, je ne tiens plus la machine, là. Hein. Parce que si vous battez entre vous... Oui, Michel, tu disais quoi? Non, sur...
Il faut dire qu'en une semaine... 350 000 personnes ont vu Paradis.
Et 600 000
en deux. Ça ne s'est jamais vu pour un film coréen. Et c'est, tout de même, les gens, le bouche à oreille a l'air excellent puisque le film continue à cavaler en tête des recettes.
Ah oui, mais c'est comme ça.
C'est déjà le film coréen le plus vu de l'histoire.
Il y a 15 jours, le courrier sur le Almodovar m'avait laissé pantois. Et il était assez violent. Allez, on commence. Elle était à Cannes dans Frankie d'Irasax. Elle joue Marie Stuart jusqu'au 6 juillet dans la mise en scène de Bob Wilson à l'Espace Cardin. On en a parlé au masque. Et voici encore Isabelle Huppert. Je ne sais pas quel est son emploi du temps, ni sa vie quotidienne. Dans Greta, le film de Neil Jordan, elle est cette fois Greta Hideg, une prof de piano, veuve, célibataire, qui vit à New York, et qui fait un jour la connaissance de Frances McCullen, qui est jouée par Chloé Grace Moretz, laquelle lui rapporte le sac à main qu'elle a perdu dans le métro. Frances, qui est parfaite d'ailleurs dans le rôle de l'innocente, vient de perdre sa mère et elle fait sur Greta une fixation de substitution. Évidemment, le suspense va virer à l'horreur. Évidemment, Isabelle Huppert joue très bien la sorcière, comme dans le film d'Anne Fontaine, Blanche comme neige. Bien d'emblée, on sait qu'on peut pas trop lui faire confiance. Évidemment, c'est ce qui pose un peu un problème, parce que dès le début, on devine, disons, si on ne sait pas comment ça va se terminer, Sophie.
Bah, beaucoup de déceptions, parce que au départ, il y a beaucoup de choses qui sont assez excitantes dans le projet. Enfin, Neil Jordan, Isabelle Huppert, bon, même si Neil Jordan a...
C'est une erreur de casting.
Et je crois pas, non, je dirais pas que c'est une erreur de casting, parce que, certes, elle est, on se doute très vite que, en effet, elle porte un gouffre en elle, mais je trouve que c'est plutôt une assez belle idée de se dire, qu'elle est quand même une figure maternelle, parce qu'elle peut aussi jouer une figure maternelle assez,
Isabelle
assez
Huppert,
bluffante au début.
Maternelle?
Moi, je trouve que le début est très bien. Mais oui.
Elle a plein de qualités, mais.
Ben, je trouve qu'elle peut jouer.
Moi, je la vois apparaître.
Bah, toi, peut-être, pas moi. Moi, j'ai le sentiment qu'elle peut jouer ça. Et en tout cas, au début, je trouve qu'on peut, si, c'est pas ce qui me gêne dans le film. Ce qui me gêne dans le film, c'est qu'au début, je le trouve formidable. Je trouve qu'il met tout bien en jeu, y compris cette idée de figure maternelle derrière laquelle il y a un gouffre. Le problème, c'est qu'en effet, ça, c'est vrai, à mesure que l'intrigue avance, eh bien, les enjeux se dégonflent complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien et on arrive au bout du compte à un film qui est complètement vain et complètement, en effet. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle interprète cette psychopathe qui est comme une espèce, ça pourrait être comme une femme qui s'est arrêtée de grandir, hein, ou une gymnaste. On imagine une danseuse comme ça qui se serait arrêtée de grandir, qui serait devenue folle à un moment donné. Moi, ça me fait beaucoup rêver, ce genre de personnage, et je trouve qu'elle est formidable là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi, le film n'a aucun enjeu et vain. Et surtout pour un film de genre, il échoue à dire davantage que ce qu'il montre, ce qui est quand même un peu embêtant.
Michel.
Oui, d'abord, on se rend compte tout de même qu'un metteur en scène, ça compte dans un film. C'est-à-dire que c'est le rôle d'Isabelle Huppert qu'elle a tenu plusieurs fois avec dans Elle, dans Merci pour le chocolat, dans La pianiste, c'est-à-dire des rôles de femmes cruelles, possessives, destructrices, etc. Elle est encore une fois très bonne. Moi, je trouve qu'on peut voir le film. Si, je trouve qu'elle fait sa performance habituelle avec du talent. Mais le film n'est ni fait ni à faire parce que d'abord, Neil Jordan est un cinéaste très surfait. C'est quelqu'un de très lourdingue, mais qui justement, on aurait pu aller vers le Aldrich de Qu'est-il arrivé à Baby Jane ou Sweet Charlotte, c'est-à-dire une sorte d'excès. Aldrich va jusqu'à fond la caisse. Tandis que là, le film reste assez sage. Il est même comique. involontairement, y compris dans la scène du restaurant où Isabelle Huppert se rappelle de ses origines hongroises.
Se rappelle qu'elle se met à parler hongrois.
Elle se met à parler hongrois au milieu du restaurant. C'est d'un effet comique irrésistible. Et c'est vrai que le film est très médiocre. Il est presque même anachronique. On a l'impression que c'est un film qui vient d'un tiroir qu'il aurait été retourné il y a 25 ans, une sorte de série B.
Puis encore une fois, terriblement attendu, non? Charlotte.
Attendu, mais en même temps, c'est un film, je trouve, qui a réussi l'exploit d'avoir un scénario à la fois totalement prévisible et totalement invraisemblable. ce qui est quand même assez fou. Et je suis d'accord avec Sophie que sur le début, il y a quand même une sorte de malaise, de tension qui s'installe, mais qui se dissipe extrêmement vite. Parce que vous le disiez, Michel, Isabelle Huppert, enfin, elle s'auto-compile, quoi. Elle auto-compile les rôles qu'elle a tenus chez Haneke, Verhoeven, voire Chabrol pour certains.
Anne Fontaine, elle en a
la
sorcière de Blanche-Neige.
Et en même temps, elle est tellement incroyable quand elle joue la femme névrosée, mais dont les névroses naissent d'une souffrance, en l'occurrence d'une extrême solitude. Et en fait, moi, pendant tout le film, je ne savais pas à quel degré le prendre. C'est-à-dire qu'au premier degré, on se dit c'est complètement foireux, d'autant plus que la mise en scène est pataude, lourdingue. Tous les effets sont surlignés, il y a une musique de violon strident, avant même qu'on voit ce qui se passe à l'image, on est averti par les oreilles, c'est insupportable. Et en même temps, au second degré, même si ça ne va pas totalement jusqu'à la parodie, c'est pas totalement désagréable. Je trouve que c'est un peu le petit plaisir coupable du dimanche soir.
Il y a des gens qui vont au cinéma, là, tu es en
train de... Alors non, attendez que ça passe à la télé, c'est horrible de dire ça, mais non, il faut pas y aller.
Allez Nicolas,
non,
faut pas perdre son temps. Aide-moi à dire quand même.
C'est un gros nanar. C'est juste que c'est comme c'est assez élégamment filmé.
C'est un petit nanar.
C'est un petit nanar.
1h30, c'est un petit nanar.
Comme c'est assez élégamment filmé, on se demande sans cesse s'il faut en rire ou en pleurer, s'il y a du suspense. Et tout le monde s'inquiète de l'ubérisation de la société. Moi, je m'inquiète de l'ubérisation du cinéma. C'est-à-dire que elle a tourné quand même.
C'est avec le cinéma.
Mais c'est ça. Il y a le théâtre.
Il y a le théâtre.
Elle a tourné 12 films en 2 ans. C'est-à-dire qu'on la voit à peu près tous les 2 mois. Il fallait bien qu'un moment. Et dans tous les pays, il y a un moment elle bute sur un nana. Et moi, je trouve que elle navigue à vue. Alors effectivement, du coup, elle se raccroche, elle compile un peu tout. Il y a même un peu de Jekyll et Hyde. Elle avait fait Madame Hyde. Enfin, elle compile, mais c'est n'importe quoi. Donc en plus, je trouve qu'il y a il y a un côté vraiment thriller parano des années 90, comme le disait Michel. On pensait que la vague était un peu partie. Et puis avec un petit relent, parfois un peu réac. Je trouve même la manière dont Neil Jordan, il y a des petits trucs un peu réac sur la dont le flic à un moment dit à Chloé Grace Moretz, lui dit mais elle a le droit de faire ça, de vous fixer toute la journée, de la rue et de vous prendre en photo. Il y a quand même il y a des petits relents que je trouve pas très agréables en plus dans le film. Donc voilà, non, c'est un gros nanar. On y croit. Enfin voilà, faut
essayer. On peut difficilement reprocher à Huppert quand même de pas jouer. Enfin, tu vois ce que tu lui reproches, c'est-à-dire qu'on la réclame, on lui propose des rôles, ça l'éclate.
Ah oui.
On lui reproche rien. On dit juste qu'on n'a pas envie de voir ce film.
C'est tout. Oui, beaucoup moins
bien. Mais moi, j'ai été la première à dire qu'il était pas bien.
Une réaction dans le public de l'Alliance Française. Monsieur, bonsoir.
Je suis un inconditionnel de Huppert, mais je trouve que là, elle s'est fait une erreur de casting elle-même. C'est-à-dire qu'on l'a tellement vue. Je savais ce que j'allais voir. Je pensais qu'elle allait faire quelque chose d'autre, puisqu'on l'a vue dans le Anne Fontaine, on l'a vue dans le L. Et là, je trouve qu'elle se renouvelle pas du tout et que c'est tout à fait dispensable et continuer à aller voir la Palme d'Or.
Le Greta de Neil Jordan, toujours à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, il y avait l'Odin du toujours provocant Quentin Dupieux, le réalisateur de Haut Poste, a fait son petit effet. Il est vrai qu'il signait le retour à Cannes de Jean Dujardin, entouré ici de Adèle Haenel et d'Albert Delpy dans le film le plus court du festival, 1h17. Personne n'a fait mieux, hein. Et du jardin, c'est Georges, un cadras barbu qui plaque tout, femme, domicile, boulot, pour s'offrir un blouson en daim à franges. Nicolas en a un, je sais. Autrement dit, quand même, la peau du cul, 7 500 €. Un achat qui le rend totalement fou, qui l'oblige d'ailleurs presque aussitôt à faire disparaître tous les blousons de la station des Pyrénées où le serial blouson s'est réfugié et où Adèle Haenel incarne, ça j'adore, une serveuse de bar mais ultra cinéphile, on pourrait la prendre comme critique au masque. Si l'on ajoute que Georges, à qui le vendeur du blouson andin a refilé en prime un caméscope, se croit cinéaste, on mesure, je crois, assez bien le délire de ce film. Nicolas, qu'en as-tu pensé ?
Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un des meilleurs films de Dupieux. C'est-à-dire que Dupieux, il faut adhérer. C'est-à-dire que c'est un univers.
Au poste, c'était bien.
Au poste, c'est très bien. Et moi, j'aime beaucoup quand Dupieux, en fait, fait des films sur le cinéma. J'avais un très bon souvenir de Rubber que j'ai pas revu depuis un moment, mais et Réalité, qui pour moi était son meilleur film jusqu'ici, et que là, c'est vraiment aussi un film sur le cinéma. C'est-à-dire sur, c'est presque une forme de manifeste pour l'amateurisme artistique. C'est-à-dire que Dupieux, il se tient depuis ses débuts à bricoler du non-sens dans son coin. Il sait même pas de chercher à raconter quelque chose. Et justement, quand derrière il y a le cinéma et que finalement la mise en abîme, mais elle est sur son propre métier et sur son propre amusement, et ben le film devient passionnant. Et là, je trouve que, alors, comment expliquer ce, c'est un pur plaisir à la fois humoristique, à la fois il y a une vraie un vrai côté anxiogène, une espèce de torpeur qu'il y a toujours dans ces films, qui gagne petit à petit parce que le personnage de Dujardin est vraiment mu par des pulsions criminelles. Alors on va pas trop en dire, il y a beaucoup de surprises.
Alors en plus, ce film est court, donc si tu racontes la fin déjà.
Mais c'est vraiment un film sur l'artiste et le cinéaste, comme en tant que mythomane. C'est presque, je pense, un autoportrait même de Dupieux, en tant que mythomane, mégalomane et fétichiste, qui emmène les gens dans sa folie, notamment cette jeune barmaid, et qui jusqu'au meurtre. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai artiste de l'histoire, finalement, on comprend à la fin, c'est presque plus Enel que lui, c'est un pur mythomane. Et il y a cette ambiance, il a tourné dans les Pyrénées, il arrive à réunir presque une ambiance de western.
Les Pyrénées canadiens.
Voilà, on a l'impression d'être aux États-Unis, comme il filmait avant, il était parti aux États-Unis, puis là il revient en France. Et il travaille comme ça un imaginaire bis, un imaginaire cinéphile. Pour moi, Réalité, c'était un peu sa version tordue de Mulholland Drive. Pour moi, celui-là, c'est un peu son voyage au bout de l'enfer, sauf que l'enfer, c'est un personnage, parce qu'il y a vraiment ça. Il y a en plus le vrai titre de Voyage au bout de l'enfer, c'est Deer Hunter, c'est le chasseur de daims. Il y a vraiment comme ça une espèce de, alors si vous voyez le film, vous voyez pas le rapport avec le film de Cimino, je comprendrai, mais vraiment il y a ça. Je pense que c'est une revisitation complètement folle d'une cinéphilie déviante, et voilà, je trouve le film assez réjouissant, et Dujardin est formidable.
Et ça va faire repartir, vous allez voir la vente des blousons en daim, Charlotte.
Moi, j'ai adoré. Je trouve que ce qui est fascinant, c'est la façon dont Quentin Dupieux aborde la folie. C'est-à-dire que ce personnage est totalement fou, mais il nous est donné pour fou dès le début du film. Habituellement, au cinéma, on voit quelqu'un qui devient fou, qui peu à peu va glisser, peu à peu va perdre pied. Et là, dès le départ, ce Georges nous est donné tel quel. Ses névroses, on comprend, sont nées aussi d'une extrême solitude. En ça, il rejoint Greta, sauf que là, c'est traité totalement différemment, avec une mise en scène qui est extrêmement sèche, nette, précise. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de gras. Et puis, Jean Dujardin, quand même, on a l'impression qu'il ne fait rien et il habite complètement ce Georges. Il n'y a pas un lever de sourcil. Il est dans une économie et de dialogue par le scénario.
Il n'est pas dans SS 117.
Mais
hein.
Vraiment, il apparaît neutre et pourtant, on voit la folie de cet homme. Et je trouve que vraiment Dupieux, petit à petit, film après film, construit une œuvre extrêmement singulière, personnelle, totalement à part dans le paysage du cinéma français, qu'il faut le souligner. Et comme vous le disiez, c'est drôle. Alors un humour plutôt noir, jaune ou sépia, vu les couleurs du film, mais c'est totalement réjouissant.
Michel.
Oui, alors moi, je l'avais pas vu à Cagé, donc je l'ai vu en salle. Je m'attendais, on disait, le grand éclat de rire du festival.
Oui,
pour moi, c'est un film dépressif.
Pas tellement drôle.
C'est sans doute son meilleur film. Jusqu'à maintenant, il avait fait Rubber, qui est un peu sur le même principe, c'est-à-dire c'était un pneu qui destructeur. Là, c'est la veste de daim.
Mais en même temps, il y a quand même une évolution.
Il y a une évolution.
Ouais. Passer du pneu au daim, c'est.
Oui, alors c'est incontestablement original. Je sais pas si c'est un grand film. Je crois pas. Moi, j'ai pensé à des films de Ferreri avec Piccoli ou Mastroianni comme Break Up ou bien Dillinger est mort, qui étaient des fables réalistes extraordinaires. Je trouve pas que le film atteigne cela, mais c'est un film qu'on peut voir avec plaisir. Alors il y a une petite réserve, c'est que on lui offre un caméscope et le personnage vante les mérites du digital. Et moi je trouve que l'image n'est pas au niveau du film.
Mais il fait presque son Alain Cavalier.
Elle est digitale, l'image, elle n'est pas au niveau du film.
Oh non, il fait pas son
Cavalier. Dujardin fait son Alain Cavalier. Et
Annelle aussi, qui est un rôle qui est pas du tout son rôle habituel.
Oui.
Elle joue toujours une femme très forte, très dominatrice. Et là, au contraire, elle a vraiment une tendresse et un dévouement pour cet homme. Non, je trouve le film est à voir.
Sophie.
J'aime beaucoup le film. Je suis pas sûre qu'il faille voir un fou tel que tu le décris, Charlotte, par exemple, avec des névroses et tout. Je pense que c'est un pneu.
Bon.
Mais oui, c'est un pneu aussi, d'une certaine manière.
Non, c'est la folie.
Du Jardin n'est pas un pneu.
Non, mais je veux dire, il a l'apparence d'un homme, mais au fond, je suis pas sûre qu'il appartienne à une typologie humaine particulière. Ce qui est plus, mais ce qui est en revanche, chacun peut rêver là-dessus, c'est pas un problème.
C'est quand même un homme qui dialogue avec son blouson en chant contre chant, un blouson posé sur une chaise.
Oui, mais moi, comme Alain Cavalier.
Et lui parle. Tu as raison, il y a un dialogue. Mais ce que je trouvais extraordinaire chez Quentin Dupieux, c'est qu'il tourne comme ça autour de l'absurde et du non-sens, en effet, qui est un territoire très vaste, mais où il se renouvelle énormément. Et contrairement au film précédent, au Poste, qui avait recours à beaucoup de trompe-l'œil, il y avait le verbe, il y avait de l'aléatoire, il y avait du romanesque, c'était toujours de l'absurdité, mais enfin, on sentait quand même qu'il utilisait beaucoup les choses trappes, etc. Là, il décape de tout, c'est-à-dire qu'il y a, oui, c'est un homme, mais il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de désir, à part ce projet complètement dingue, qui à ses yeux a beaucoup d'intérêt, mais qui à nos yeux, moins il a de sens, plus il a d'intérêt pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui réchauffe l'intrigue, tout ce qui est censé ou réchauffer les gens entre eux, même Adèle Haenel qui croise sa route, tout ça, c'est décapé, c'est annulé, et du coup on se retrouve face à une trajectoire, 1h17 en effet, mais il la tient jusqu'au bout, c'est un vertige incroyable, et je trouve que c'est d'une sauvagerie totale à cause de ça. Et on se retrouve face à un truc alors qu'on ne peut pas psychologiser ou comprendre, non. Mais qui par rapport au réel nous met dans un drôle d'état, alors c'est drôle en effet, je comprends ce que dit Michel, il y a un côté presque terrifiant, quoi. Enfin, c'est sauvage.
Il y a quand même des kilos, contrairement à ce que tu dis, de névrose chez ce mec.
On pense à l'emploi du temps aussi, on pense à la nature d'Emmanuel Carrère.
C'est un peu moins social quand même.
Le dain de Quentin Dupieux, des réactions peut-être sur ce film dans le public, non. Eh bien, on passe... En restant toujours à Cannes, décidément, c'est la deuxième émission après le festival où on a des films qui étaient présentés là-bas. Et là, toujours à la quinzaine des réalisateurs, il y avait Zombie Child de Bertrand Bonello, film qui d'ailleurs confirme la tendance mort-vivant du cinéma actuel, puisque après le film de Jarmusch, qui n'était pas quand même formidable, et après Atlantique de Mati Diop, qui a quand même obtenu le Grand Prix du jury à Cannes, voici donc que le cinéaste de la Polonide s'intéresse aux zombies d'Haïti. On est en 1962, sous le régime du terrible Duvalier. Une cérémonie vaudou se prépare. Un homme, Clervius Narcisse, à qui on a versé une poudre blanche de poison pilée dans les chaussures. Maintenant, je fais très attention quand je mets mes chaussures. il s'écroule dans la rue. Il est raide mort, il est enterré, puis déterré et envoyé dans les champs de canne à sucre où travaillent des esclaves zombies. Après, on est donc un demi-siècle plus tard, et là on bascule directement de Jacques Tourneur à Sofia Coppola, puisqu'on se retrouve dans le pensionnat parisien très chic de la Légion d'honneur, c'est près de Paris, où une jeune élève jouée par Louise Labeck demande à une orpheline haïtienne, qui est Wislanda Louis-Matt, et qui est la petite fille de Clervius Narcisse, si vous me suivez, d'intercéder en sa faveur auprès de sa tante, qui est prêtresse vaudou, pour qu'un sort soit jeté sur son petit ami. Film sur les zombies, on l'a compris, sans, il faut dire la vérité, les moyens de Jarmusch, avec aussi une dimension plus politique, puisqu'il est beaucoup question d'esclavagisme et de colonialisme, avec ici, d'ailleurs, dans le film, un cours donné par l'historien Patrick Boucheron. Film d'1h40. Si vous me permettez, j'étais un tout petit peu étonné de la place absolument incroyable que les journaux ont réservée la semaine dernière à ce film, qui est intéressant, que j'ai jugé assez modeste, mais dont l'écho dans la presse pourrait laisser croire que c'est peut-être un film immense. Michel ?
Moi, j'ai un problème avec Bonello, parce que je pense que c'est à la fois quelqu'un qui incontestablement a une grande sensibilité, qui est un artiste, mais il y a deux Bonello. Il y a le Bonello sensuel... Et ça se sent dans tous ses films. Il y a une vraie matière cinématographique incontestable. Et puis, il y a le Bonello, intello, dont on ne voit pas tellement les connexions avec cette sensualité. Il n'arrive pas à faire se joindre cette poésie qu'il a de l'image, etc., avec le discours qu'il veut tenir. Alors, évidemment, le con, c'était l'horrible film Nocturama, où il y avait d'ailleurs des qualités cinématographiques, mais c'était un film irresponsable.
Mais la Polonide,
d'apologie de la, en tout cas, un regard extrêmement complaisant sur le terrorisme et les massacre. Moi, son meilleur film pour moi, c'est Yves Saint-Laurent, parce que là, il racontait, c'était un biopic, il racontait merveilleusement, de façon très originale, la vie du couturier. Alors que là, bon, c'est un peu les palmiers sauvages de Faulkner sans Faulkner. C'est-à-dire que deux histoires parallèles, les jeunes filles de l'école fondée par Napoléon, et puis le vaudou, etc. J'ai vraiment, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à voir cette connexion. C'est très cérébral, c'est très desséché, finalement. Et même si les qualités de Bonello sont incontestables, je trouve qu'il devrait revenir peut-être à une expression moins prétentieuse, j'ose employer le mot, mais qui serait beaucoup plus fort, comme sa biographie de Saint-Laurent.
Je t'ai pas dit que c'était un film sur les zombies qui, en plus, ne fait pas peur. Hein, mais ce qui est quand même une... Nicolas ?
Moi, je suis assez d'accord avec Michel. Effectivement, je pense que dans Saint-Laurent, je suis tout à fait d'accord qu'il est son meilleur film. Il y avait les contraintes du biopic, qui se confrontait à... Et là, il est un peu presque trop libre. Et moi, j'ai l'impression qu'il empile plein d'intentions qui sont passionnantes, mais que le film prend jamais, ça manque de liant. Effectivement, c'est trop cérébral. Alors, il y a aussi presque une impossibilité de mêler presque Tourneur, Sofia Coppola et Céline Sciamma dans la description comme ça de cette jeunesse, de ces jeunes ados qui sont très justes, mais qui pour lesquels on n'a aucune empathie. Il y a vraiment, elles sont presque irritantes. À côté de ça, on sent qu'il veut faire aussi un peu son Bresson avec ce discours du prof, enfin quelque chose comme ça.
Le boucheron,
qui est passionnant. C'est presque le mode d'emploi
absolument,
du film. C'est le mode
absolument.
D'emploi du film.
C'est pour ça que je terminais par
dès qu'il est dans le discours, Bonello est intéressant. Mais le problème, c'est quand il faut aller dans le cinéma. Et moi, le film ne décolle jamais et on finit par comprendre ses intentions à la toute fin. Il reste un peu, et moi j'y réfléchis, mais en tant que film, en tant qu'objet film, pour moi c'est quand même un échec, quoi, parce que ça manque de... Il empile les choses. Alors je ne parle même pas des hommages à Carrie de Palma avec la scène dans la douche au ralenti qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes où on ne comprend pas les enjeux. C'est-à-dire que c'est là comme pure intention et on a l'impression que c'est à nous de faire le film. Pourquoi pas, mais alors il faut nous en donner un peu plus, quoi.
C'est fait.
Oui, je suis... pas loin de penser ça. Je suis un peu plus enthousiaste quand même parce que je trouve que c'est un film très déconcertant, très étrange, qui est un peu travaillé par le vaudou aussi, donc il y a quelque chose qui doit s'en sortir, j'imagine. Je trouve qu'il file très bien l'histoire extraordinaire de Clervis Narcisse.
Au début
Oui, enfin, il va et vient, hein,
puis ça, oui, tu l'as dit,
hein, ça va et vient entre les deux. Et je trouve que tout ce qui se passe à Haïti, cette histoire extraordinaire de ce phénomène sur lequel comme l'anthropologie moderne s'est penchée, parce qu'il est documenté, ce type, enfin, son histoire est documentée comme zombie. C'est pas qu'il a travaillé qu'il raconte cette histoire et que je trouve beaucoup de poésie avec une sorte de gravité que je trouve très belle. Là où je vous rejoins, c'est qu'il a un peu plus de mal à faire le lien, en effet, avec la petite fille qui, de nos jours, est le pensionnat, même si on comprend bien qu'il traite de l'aliénation ou de choses. Enfin, d'un côté, on est aliéné par l'amour, de l'autre, on est aliéné par son frère, en l'occurrence, que c'est le frère de Clervis Narcisse qui l'a zombifié. Mais bon, je trouve que le film est un peu artificiel dans le lien qu'il essaie de faire et il est un peu tiraillé dans tous les sens et un peu tiré par les cheveux, mais quand même il a de la gueule, quoi. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, de très déconcertant. Il faut dire aux gens que c'est déconcertant, mais il y a des choses passionnantes, quoi.
Charlotte.
Comme dit Sophie, ça a de la gueule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des séquences qui sont absolument stupéfiante de beauté plastique. Moi, je trouve le film extrêmement vénéneux, hypnotique, envoûtant. Ouais, alors vous me direz, c'est à moindre des choses quand on parle du vaudou haïtien.
Oui, mais c'est vrai.
Et en même temps, donc je trouve ça tout ça est très passionnant. Et en même temps, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est-à-dire que je suis sortie de là, effectivement, en essayant de recoller un peu les morceaux de ces deux histoires parallèles qui sont montrées pendant le film. Même si on voit la dimension métaphorique, effectivement, les zombies à Haïti du temps de la colonisation, en les privant de liberté, c'est une métaphore de tous les laissés pour compte, les maudits de la terre, les marginaux, et que dans ce pensionnat de la Légion étrangère où on éduque et on forme les futures élites d'aujourd'hui avec leurs uniformes, elles doivent toutes marcher au pas et elles sont elles aussi aliénées d'une certaine manière et privées de leur liberté individuelle. On peut y voir une armée de zombies en marche aussi. Enfin, il y a peut-être cette dimension politique aussi qu'il essaye de nous dire sur la formation des élites françaises. Donc oui, il y a un fond politique est assez intéressant et je trouve ça très très beau, assez fascinant et quand même d'un ennui assez mortel, quoi. Non mais c'est quand même, et la beauté plastique n'empêche pas l'ennui, c'est qu'au bout d'un moment, comme vous le disiez, on n'a pas d'empathie, ces jeunes filles sont pas très passionnantes et on s'ennuie.
Eh ben c'est ce que vous avez dit, c'est pas ce qu'on a lu ces jours-ci dans la presse. Zombie Child de Bertrand Bonello. Nevada, le premier film de Laure de Clermont-Tonnerre, tourné aux États-Unis, produit par un autre amoureux des chevaux, qu'est Robert Redford avec Mattia Schoenaerts, Jason Mitchell. Bruce Dern, même si elle est inspirée d'un authentique programme que j'ai découvert avec ce film d'ailleurs, de réinsertion en vigueur aux États-Unis, que j'aimerais beaucoup voir appliquer en France, l'idée de ce premier film est quand même follement romanesque. Imaginez des Mustangs sauvages qui sont capturés dans l'immense plaine du Nevada pour être confiés à des prisonniers qui sont chargés de les débourrer, de les monter, de les dresser, mais derrière les barreaux. Et une fois cette mission accomplie, les chevaux sont vendus, au cours d'ailleurs d'une présentation de rodéo, sont vendus à des cow-boys ou à la police des frontières. Et là, notre héros roman, Mattia Schoenaerts, le fameux taureau de Bulleid, qui est incarcéré pour avoir voulu tuer sa femme, va d'abord entrer en conflit avec un Mustang, un peu foufou, qu'on lui confie, qui s'appelle Marquis. Et puis il établit avec lui une relation de confiance qui annonce, dès le milieu du film, sa propre rédemption. C'est un premier film assez impressionnant, qui tient à la fois pour moi du western, du huis clos carcéral, parce qu'il y a du film de prison, et aussi j'y tiens beaucoup, du documentaire sur l'équithérapie, parce que c'est de l'équithérapie carcérale, avec dans le rôle du vieux formateur équestre Bruce Dern. Film qui fait, d'ailleurs Michel, vous avez fait le choix de faire pour un premier film, ce qui est rarissime, la une de positif. Oui. Avec une photo du tournage qui me plaît assez, puisqu'il y a au moins 7-8 chevaux, donc ça va.
Alors justement, je trouve que, bon, comme le grand cinéma classique, parce que ce film est classique dans sa forme, on peut penser effectivement, tu l'as dit, à ces genres américains. D'abord, c'est étonnant qu'une Française fasse un premier film aussi profondément américain.
Pour laquelle d'ailleurs la presse française de cette semaine est plutôt mitigée.
Oui, bien sûr, hein. Parce qu'il n'y a aucune prétention dans afficher, il n'y a aucune originalité volontariste. Donc ça peut pas intéresser la critique, alors que au contraire, c'est là l'exemple même d'une idée transformée physiquement dans l'action elle-même, c'est-à-dire la sauvagerie d'un cheval et la sauvagerie d'un homme, puisque cet homme s'est comporté de façon d'une violence incroyable avec son épouse, et ce cheval, ce Mustang sauvage qui court dans les plaines du Nevada.
Mais lui, il n'a rien fait de mal, lui. Hein.
Voilà, lui n'a rien fait de mal.
Non, mais je précise quand même.
Mais c'est comment ces deux forces primitives, celle du cheval et celle de l'homme, vont se sauver elles-mêmes, c'est-à-dire l'homme dompte le cheval, et en domptant le cheval, il se rédime, il retrouve une humanité. Donc c'est vraiment une idée qui pourrait être philosophique, abstraite, mais qui est rendue totalement concrète par la mise en scène. Et là, je trouve que c'est vraiment un film, que je trouve un premier film extraordinairement prometteur, avec des acteurs tout à fait remarquables. Mattia Schoenaerts, c'est un très bon comédien flamand qu'elle a fait jouer, et d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il joue aux États-Unis. Et puis on voit des gens comme Bruce Dern.
Bruce Dern est formidable, en vieux prof.
Et c'est un film, en plus fait par une femme, qui est un film qui des scènes d'action qui sont admirablement reconstituées dans une ancienne prison désaffectée où ils ont pu tourner avec des non-professionnels. Il y a par exemple une scène où on interroge des gens pour leur demander quel était le laps de temps entre votre volonté criminelle et puis le passage à l'acte. Alors, il y a des gens qui disent 10 secondes, d'autres qui disent 3 minutes, etc. Mais tous ces gens qui parlent, ce sont des anciens détenus, des gens qui ont commis des crimes et qui ont été rééduqués par le contact avec les animaux.
D'ailleurs, je peux quand même préciser que les chevaux sont aussi non professionnels. Hein,
voilà. Et je trouve que la façon dont elle filme ces étendues... Alors, c'est dans l'endroit où ont été tournés les Misfits de Houston. Et c'est vrai que ce mélange de carcéral et de western est tout à fait accompli.
Sophie.
Oui, c'est une très belle idée de départ, le western, la mythologie des grands espaces et l'enfermement, le huis clos européen, machin, l'idée de...
Je sens que t'as pas aimé.
la rédemption par le dressage magnifique, en plus ça existe, donc c'est formidable, mais je trouve que...
Tu sais qu'entre parenthèses, quand je dis que c'est efficace, c'est que on a vu qu'aux États-Unis, ça a fait chuter...
Oui, non, mais tant mieux.
Taux de récidive.
Je m'en réjouis.
C'est ça, sérieusement. Hein. Faites entrer les chevaux dans les prisons.
Oui, je suis absolument d'accord. Le problème, si tu veux, c'est que, l'histoire de rédemption, avec Mattia Schoenaerts, en plus, j'ai l'impression d'avoir vu 10 000 fois. Alors, pas avec des chevaux, c'est vrai, mais quand même. Hein, finalement, dans De Rouille, oui, dans De Rouille et d'Os, c'était aussi le genre d'homme qui apprenait à dire « je t'aime hein, ». Bon, en gros, c'est ça. Bon. Et surtout, ce qui m'embête, même s'il y a un premier plan magnifique du jour, j'ai pensé à toi tout de suite, et je trouve ce premier plan où on voit les chevaux qui hennissent et sans musique, c'est magnifique. Mais le problème du film, c'est le cœur du film. C'est-à-dire que cet apprivoisement dont tu parles, Michel, où en effet, on a vite compris que c'était un miroir et que pour arriver à dompter le cheval, il est obligé de dompter sa propre rage et sa propre peur. Elle installe une graduation, elle n'est pas idiote, elle sait très bien qu'il va falloir que ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Donc elle installe une graduation, et cette graduation, elle est très mal faite. Alors un coup, il tape sur les chevaux, ensuite il n'y arrive pas, il renonce, et puis le cheval vient le rechercher. Et je trouve que ça ne marche pas. Et c'est dommage, parce qu'il y a en effet un vrai potentiel. J'ai horreur de ce mot, mais enfin, je l'emploie.
Nicolas.
Moi, je suis assez d'accord avec Sophie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, la partie documentaire du film est la plus intéressante, je trouve. Les chevaux, je trouve, d'ailleurs, presque jouent mieux que les humains. Non, mais c'est vrai quand, tu disais qu'ils étaient non professionnels, mais c'est vraiment ça. Il y a à la fin, un Indien qui apparaît, qui vient prendre la place de quelqu'un d'autre dans le spectacle final, s'il donne un show, enfin, je sais pas vous. Il y a une vente aux enchères.
C'est pas une vente aux enchères, c'est une séance de rodéo.
De rodéo, et après, ils vendent des chevaux
aux
enchères. Et là, à ce moment-là, il y a un Indien qui, visiblement, est un vrai détenu, qui amène comme ça une histoire, rien qu'avec son charisme. Mais sa gueule, et il y a ce commissaire priseur qui fait des espèces de glossolalie.
Non,
mais c'est. Mais si, on est une vente aux enchères, c'est une sorte de commissaire priseur du rodéo.
Oui, il parle très vite.
Voilà, très vite, qui parle très vite comme ça, une espèce de. C'est assez
comme
fascinant.
Toi.
Enfin, oui, exactement. Je suis un petit peu plus compréhensif
mais,
que lui.
Mais on le comprend moins bien.
Et c'est très beau. Après, voilà, je trouve qu'elle y va. Il y a eu. Alors après, elle ajoute une intrigue parallèle avec une histoire de trafic de drogue. C'est-à-dire que l'écriture des personnages, elle est un peu au gros sabot, si je peux me permettre.
La fille.
Voilà, l'histoire de la fille. Alors, il y a en même temps une très belle confrontation au milieu. Mathias Sonnert, c'est un peu systématique ce côté homme animal.
Bah, donc, il le fait tellement bien.
Il le fait bien.
D'accord,
il
mais c'est comme Huppert.
Bon. Donc c'est un peu. C'est un film. Un premier film honorable. Voilà, c'est tout à fait honorable.
Un film sans Isabelle Huppert.
Après, j'y vois pas comme par exemple.
C'est dommage.
Je pense, moi, ça m'a fait penser à The Rider, qui pareil sur le mélange documentaire, qui était très beau, le mélange documentaire de fiction.
C'est
très différent, mais sur le western, la prison sociale, il y avait.
Oui, parce qu'il y a des chevaux.
Ça travaillait. Non, mais ça travaillait sur la légende de l'Ouest, tout ça. Enfin, ça travaillait beaucoup de choses assez similaires. Bon, c'était son troisième film ou deuxième film à Chloé Zhao. Je trouve qu'il y avait plus de cinéastes et de cinéma dans ce film-là. Là, c'est un honorable premier film.
On sent
aussi qu'elle manque de moyens et que parfois elle s'arrange aussi avec ce qu'elle a récupéré comme matière au montage pour créer ces scènes.
Sur un premier film.
Et voilà, après c'est tout à fait honorable comme un premier film, mais de là à y voir une cinéaste
de façon de cinéaste.
Alors moi je trouve ça bien plus qu'honorable, je trouve ça extrêmement maîtrisé pour un premier film. Et alors moi, contrairement à vous,
prends ton temps pour parler si tu veux.
Ce postulat de départ, à savoir pour maîtriser un cheval, il faut savoir se maîtriser soi-même pour dompter ses pulsions, sa bête intérieure. Et tout ça, moi, me faisait vraiment craindre le pire. Je me suis dit, oh là là, on va y aller dans le pathos, cette espèce de parallèle, de métaphore est tellement évident, ça va être lourdeau, pathos. Eh ben, pas du tout. Je trouve que le film n'est pas du tout si prévisible que ça et qu'elle parvient extrêmement bien à le conclure d'un point de vue de scénario. Évidemment, porté par Mathias Schoenaert, bien sûr, on l'a déjà vu dans ses rôles de rédemption, cette espèce de bloc de colère et de violence plus ou moins retenu, qui est quasi mutique du début à la fin, mais avec quand même une émotion qui passe dans les yeux. Oui, on l'a déjà vu, mais il le fait tellement bien. Et cette alliance entre effectivement les espaces extérieurs, ce soleil de plomb qui font partie du code de genre du western et l'enfermement carcéral fonctionne merveilleusement. Moi, je trouve ces allers-retours. Et effectivement, elle a travaillé avec des anciens détenus qui jouent tous les personnages secondaires. Ils sont incroyables. Et alors moi, des premiers films maîtrisés à ce point, bah, j'en veux bien toutes les semaines.
Nevada de l'or de Clermont Tonnerre. Oui, encore une réaction dans le public de l'Alliance française. Le micro vient vers vous. Rebonsoir.
Oui, c'est pour un premier film, c'est absolument remarquable. Vous avez eu raison de parler de la scène d'ouverture qui est absolument formidable. C'est-à-dire que les Mustangs sont dans le Nevada et puis on entend cet hélicoptère qui est monstrueux et ils vont être faits prisonniers comme c'est le thème du film. Je trouve que Mathieu Schoenaert est impressionnant et effectivement, vous l'avez dit aussi, ça me fait penser à The Rider de Chloé Zhao, je crois, cette chinoise.
Où il y avait des scènes de rodéo terribles.
C'était des Lakotas, c'était des vrais Indiens qui domptaient, enfin qui faisaient du rodéo. C'était absolument formidable, c'est absolument sauvage. C'est, comme vous le dites, s'il y avait autant de bons premiers films aussi forts que ça, et effectivement Monsieur Garcin, j'ai pensé à vous. J'ai dit, vous allez. Il y a tellement de beaux chevaux et c'est excessivement puissant et c'est très très beau film.
Il y a des films avec les chevaux que je n'aime pas. D'autres réactions, non, sur ce film. Allez, on va vite pour ce biopic de Nouriev, signé par l'acteur britannique Ralph Fiennes, avec dans le rôle titre Leg Ivenko, mais aussi. On se demande un peu ce qu'elle fait là. Adèle Exarchopoulos, Olivier Rabourdin, Raphaël Persona. Ça se passe à Paris, on est en juin 61. Le ballet du Kirov se produit à l'Opéra. Nouriev, danseur étoile de 23 ans, formé à Saint-Pétersbourg, ex-Léningrad. Toute la période qui est retracée en flashback très, très, très pesant. Donc, il triomphe dans le lac des Cygnes. Et à Paris, il est suivi par les agents du KGB et guidé par Clara Saint, qui est jouée donc par Adèle Exarchopoulos, qui est censée être la fiancée d'un des fils du ministre André Malraux. Nouriev n'arrête pas de sortir, et la nuit, dans des lieux plutôt chics, il est heureux d'être libre jusqu'au jour, et là, tout est vrai, hein, où le Kirov doit, depuis le Bourget, s'envoler pour Londres. Nouriev, à qui Moscou ordonne de rentrer à Leningrad, se jette alors dans les bras de deux policiers français et demande l'asile politique. Voilà un film très sage, où il faut quand même saluer dans le rôle de Rudy et la prestation de ce danseur ukrainien Oleg Ivenko, qui est à la fois convaincant dans son jeu et dans ses grands jetés. Quant à Ralph Fiennes, il s'est gardé le rôle du prof russe de Nouriev, qui s'appelait Alexandre Pushkin. Charlotte.
Pour les néophytes qui ne connaissent pas la vie de Rudolf Nureyev, ils apprendront des choses. Oui, pour les gens qui connaissent...
On n'apprend pas grand-chose non plus.
Bah, un petit peu quand même. Mais pour les gens qui connaissent un petit peu sa carrière, son parcours et sa vie extrêmement romanesque du début à la fin, moi, c'est mon dieu, c'est l'un des plus grands génies du XXe siècle. Et donc, j'étais extrêmement frustrée par ce film qui ne montre qu'une des facettes de ce génie incroyable qui, certes, était un bourreau de travail, un monstre d'orgueil, quelqu'un de froid, de distant, de très,
très caractériel,
solitaire,
hein.
Caractériel. Et en même temps, jamais le film ne montre ce qui le caractérisait aussi, à savoir sa rage de danser, son immense sensualité, son appétit pour les garçons, pour le sexe, pour les excès en tout genre. Le film préfère nous montrer sa passion pour les trains électriques plutôt que ses virées dans le Paris nocturne la nuit. Là, on le voit au Crazy Horse. Toutes les bios savent qu'il n'allait pas que dans les musées et au Crazy Horse. Enfin, bref. Donc, c'est très frustrant. Les acteurs français dans ce film sont tous plus faux les uns que les autres.
Ah, la scène finale avec Rabourdin et Persona
elle est plutôt
juste.
Je suis d'accord. Il y a un petit peu de tension là sur ce climax du film qui, en plus, nous est donné dès le début, dès la scène d'ouverture.
Parce que tout le monde le connaît.
Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, non, tout le monde ne connaît pas ce fameux saut au bar du Bourget en 61. Et puis Oleg Ivenko, moi je regrette, il est excellent danseur, mais il a trois expressions. Sa mine un petit peu boudeuse, le regard noir. Moi, il m'a
mais
pas
ses grands jetés sont très convaincants.
Ah oui, c'est vrai.
Nicolas,
c'est décevant.
Je suis assez d'accord. C'est une espèce de coproduction internationale, ni bonne ni mauvaise, sans âme, sans parfum. Alors effectivement, la fin est bien parce que Rabourdin, qui est un peu notre Kevin Spacey, il amène comme ça une présence et que c'est le moment où il y a un enjeu dans le film. Effectivement, va-t-il rester, va-t-il partir? Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il faut commencer à légiférer sur les biopics parce que là, il y en a deux au programme. Il y en a à peu près. Oui, c'est comme Huppert, il y en a par semaine. On n'en peut plus.
Michel.
Oui, mais moi, évidemment, ils sont au programme tous les deux du Masque. Ils sont sortis en même temps. J'ai pensé à Tolkien, qui m'a laissé complètement froid. C'est un film.
Ah, mais c'est même pire.
Oui, bien pire, parce que les scènes de guerre ne servent à rien. Il suffisait d'en montrer une. Là, on a six scènes de la bataille de la Marne et tout, des Ardennes, pour nous montrer.
Tu sautes ton tour pour le.
Mais justement, je trouve que le film de Ralph Fiennes, là, le Nouriev, tout de même, il transmet quelque chose. D'abord, il respecte les langues.
Oui, c'est vrai.
Lui-même joue le professeur à Leningrad.
Il parle très bien russe. Il
est doublé en russe, il parle russe. Je trouve aussi que la scène finale est digne de très bons films d'espionnage. Finalement, son grand saut, digne de ce qu'il faisait à l'opéra, c'est de sauter justement vers la liberté. C'est très prenant. Et puis surtout, on montre aussi comment il va s'inspirer. Il regarde des sculptures, il regarde des tableaux, il voit à travers les œuvres d'art. Il parfait son travail de danseur. Je trouve ça intéressant. C'est pas inintéressant. C'est des défauts de certains biopics, bien sûr, mais c'est pas non plus un film acheté.
Sophie.
Moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de charme et ça n'a quand même pas beaucoup d'âme, en effet.
Comme ah, ça n'a aucun Nicolas. Charme.
Ça n'a aucun charme. Charme. Il dit
même
à un moment donné.
La constitution de Leningrad de l'époque.
Oui, non, mais rien ne colle très bien. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que pour une fois qu'un anglo-saxon fait parler russe un russe, oui. On est content, mais bon, sauf que ça ne suffit pas à faire non plus un beau film. À un moment donné, Ralph Fiennes, le prof, dit à Nureyev, pour danser, il faut raconter une histoire. On a le sentiment qu'il n'a pas appliqué le précepte à son film. C'est-à-dire que le biopic, ça ne suffit pas. On a l'impression qu'il hésite entre est-ce que c'est la naissance tardive d'une vocation, est-ce que c'est un passage à l'ouest, est-ce que c'est, alors c'est tout ça à la fois qui aurait dû nourrir le biopic, mais le personnage se dérobe sans arrêt et du coup ça donne un film hyper décousu, hyper cloisonné comme ça. D'ailleurs au montage ça va jamais assez loin, on est toujours, enfin il manque mais absolument d'unité le
Ralph
film.
Ralph Fiennes dit lui-même dans les interviews que le scénariste David Herr, qui a adapté donc la grande biographie de Julia Cavanna, lui ne s'intéressait qu'à Paris et que lui, Ralph Fiennes, s'intéressait
à
l'enfance.
À d'autres. Voilà.
Et donc, mais ils n'ont pas réussi à trancher. On a
ouais,
les deux
y a un
avec
peu de
une
tout,
voix
mais il
n'y
a pas d'histoire. Il
n'y
a pas de vraie histoire. Et la figure même de Nureyev ne suffit pas à colmater tout ça. Quoi.
David bon, Nureyev. De The Hours et de The Reader. Enfin, c'est pas n'importe qui.
On va
dire
plus rapide. Avec donc le Tolkien, qui est une sorte de sous-cercle des poètes disparus. Avec donc l'histoire de l'auteur du Seigneur des Anneaux par le Finlandais Dôme Karukoski, que je ne connaissais pas, Michel, je suis désolé, avec Nicolas Hoult dans le rôle-titre, un biopic donc centré sur la jeunesse de l'écrivain britannique qui a été traumatisé pendant la Grande Guerre, où il a servi pendant la bataille de la Somme. Et le problème de ce film, c'est que chaque scène veut nous expliquer comment tout ce qu'a vécu Tolkien, notamment dans les tranchées, évidemment, a inspiré son œuvre future. On croirait un film vraiment pour les classes. Charlotte.
Bah oui, c'est scolaire, c'est d'un ennui total, c'est cuculapraline, c'est interminable.
1h50.
Le film est plat, académique, c'est carré. Alors c'est propre, en même temps, il n'y a pas un petit brin d'herbe qui dépasse. Mais pour rendre hommage à l'un des auteurs, à l'imagination.
Seigneur des Anneaux.
Voilà, la plus florissante, débordante, ce mec qui a inventé un monde entier, un langage et tout ça, bah le film en est dénué complètement. Il n'y a pas une once d'imagination.
Sophie.
Oui, le début est très pâteux, notamment, et laborieux avec la mère qui raconte des histoires. Comme si elle avait façonné l'imaginaire de ses enfants, la guerre en effet qui est là, comme si la guerre avait fait surgir des monstres dans sa tête et tout ça. Cela dit, moi je sauverais quand même la partie au collège de Buckingham. Je trouve que il y a une jeunesse et une hardiesse, ils sont avec ce mot de ralliement là qui les oblige à une sorte
à côté
de
Harry Potter là.
De hardiesse. Oui, mais moi je trouve ça là le film commence à vivre et à être assez intéressant et j'aime beaucoup Nicolas Hoult qu'on voit dans X-Men et que je trouve vraiment d'une subtilité, d'une délicatesse extraordinaire. Et franchement, à la fin du film, je trouve qu'il y a vraiment de l'émotion et je pense que c'est grâce à lui. Je trouve que c'est un acteur vraiment précieux. Et rien que pour ça, je suis un peu moins sévère que Charlotte.
Michel.
Oui, bon, ce metteur en scène finlandais avait déjà fait un film sur un artiste gay, Tom of Finland. Alors là, il y a un sous-texte gay.
Oui.
C'est effectivement tous ses amitiés.
Il est même sous la moquette.
Ses amitiés entre ces trois garçons. Voilà. Mais effectivement, il y a eu tellement de grands films sur la guerre de 14 qu'on a bien compris au bout d'une séquence que la guerre de 14 va le marquer. Et vraiment, ça n'apporte rien. C'est-à-dire, alors il laboure constamment le même thème et c'est vraiment.
On comprend pourquoi Isabelle Huppert a refusé de jouer dedans. Nicolas.
Bah oui, je vais pas en rajouter plus. Effectivement, Nicolas Hoult sauf quelques scènes parce qu'il a un petit côté Hugh Grant en plus. Il a débuté dans Pour un garçon avec Hugh Grant, il était gamin et il a ce petit charme là et ce côté très anglais. Après, effectivement, on voit bien le mec qui sait même pas, le réalisateur sait même pas comment finir certaines scènes. Alors il fait des travelling arrière qui s'éloigne du décor. C'est dommage. Il y a une petite esthétique. Enfin, c'est du biopic comme on en produisait à la chaîne dans les années 30 à l'époque où c'était à la mode et puis on les aura oubliés dans quelques années.
Tolkien de Karukoski, 3 minutes pour me dire, mais je sais que seuls Charlotte et Nicolas l'ont vu, c'est ça?
Oui.
Le Men in Black International de Gary Gray avec deux ex-Avengers, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et Michel et Sophie ont boudé ce film.
On va
vous dire en deux mots pourquoi vous avez bien fait de ne pas y aller, Charlotte.
Oui, ça va être en deux mots. Oui, non, c'est pas très intéressant. Il y a vraiment un manque de scénario total sur ce film-là. Alors, il y a quand même une tentative de féminisation donc du duo des Men in Black. Mais alors là, on se demande vraiment.
Tessa Thompson.
Mais oui, si c'est pas uniquement par opportunisme post-MeToo, tellement seulement ils n'en font
vraiment,
rien.
Et en plus, qu'ils auraient ce genre d'idée.
Incroyable. Il n'y a que des blagues vaseuses là-dessus. Enfin, maintenant nous sommes les mènes. And Women, clin d'œil in black. Non, enfin, c'est affligeant. Après, c'est pas non plus totalement désagréable. Il y a quand même une petite direction artistique sur les décors, les petits monstres verts. C'est plutôt rigolo. Mais moi, finalement, j'ai eu l'impression de me faire, comme on dit, neuroliser là, c'est-à-dire le flash qu'on se prend dans les yeux, aussitôt vu, aussitôt oublié.
Nicolas. C'est ça. C'est pas nul, c'est pas bien, c'est rien. C'est-à-dire qu'ils dépensent tant d'argent pour rien. C'est-à-dire que le même.
Ah oui, ça a coûté une fortune.
Ah, et ça marche pas comme X-Men. Et peut-être qu'ils vont commencer un peu à se poser des questions, parce que c'est éternellement cette mode des reboots. C'est-à-dire que Men in Black, le premier, était quand même un film très sympathique.
Ouais, c'était
avec
très bien,
Smith, c'était Tommy Lee Jones, qui était inspiré d'un comic book des années 90. Il y avait à la fois un humour satirique, un humour noir, et c'était sur New York, avec une parabole sur l'immigration très drôle. Là, ils reprennent les mêmes éléments, ils rebootent. Donc, moi, ce que je rebooterais bien, c'est les fesses des patrons de Major, parce que on n'en peut plus qu'ils n'aient pas d'idée. Ils ont failli faire un crossover entre Men in Black et 21
attends,
Jump
attends,
Street.
Attends, reboot, crossover.
Ils ont fait, reboot, alors, j'explique. Hein reboot, c'est on refait partir une franchise à
j'ai
zéro.
Compris, non, mais je veux dire, voilà. Je demande juste de choisir des,
voilà. Donc voilà. Et donc, ils ont failli faire un mélange de Men in Black et de 21 Jump Street, je sais pas si vous vous souvenez, et finalement, ils sont revenus à l'idée de... Et là, alors, le Men in Black, avant, ça se passait à New York, là, maintenant, il parcourt le monde. Donc, il y a un côté Mission Impossible, et en même temps, avec un humour qui est plus proche de Luc Besson, là, que celui de Barry Sonnenfeld, donc un humour assez régressif et un peu bébête. Voilà, donc en fait, c'est même pas mal fait, c'est juste rien.
Voilà, c'était Men in Black, est-ce qu'il en reste ? Le temps est venu des conseils, et on va commencer avec Sophie.
Un film d'animation qui s'appelle Buñuel après l'âge d'or de Salvatore Simo, qui raconte Buñuel au moment où sort l'âge d'or, qui fait un scandale. Il y a eu le chien d'album, mais l'âge d'or en 30 sort et il vit à Paris. Et toutes les portes se ferment, il se retrouve dans une solitude totale. Et Eli Lothar, qui est un photographe, lui propose un projet sur la Sourdes en Espagne. Et il va tourner un documentaire sur cette région d'Espagne très, très, très pauvre et terrible.
Et c'est bien dessiné.
Et c'est le graphisme est formidable, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des images. Ça donne le documentaire de Buñuel qu'on connaît, Terre sans pain. Et il y a des images réelles de Terre sans pain de temps en temps qui essaient d'une force, d'une beauté. Et c'est surtout un Buñuel qu'on connaît assez mal, avec ses caprices, avec ses extravagances, et en même temps avec sa façon de s'arranger du réel aussi, parce qu'il fait un doc, mais il est un peu surréaliste sur les bords quand même. Donc il arrange un peu à la réalité. C'est vraiment un film passionnant.
Buñuel.
Après l'âge d'or.
Après l'âge d'or, le conseil de Michel.
Alors, un film de Carol Rice, Le Flambeur, un film de 1974. D'abord, ça permet de redécouvrir l'immense talent de Carol Rice, qui était un des fondateurs du Free Cinéma, avec Samedi Soir, Dimanche Matin, et puis Morgane. Et il est parti aux États-Unis, il a fait ce film sur un accro au jeu, qui est professeur à l'université à New York. Il est évidemment, le scénario est dû à James Toback, qui va devenir plus tard metteur en scène, et c'est sa propre expérience, c'est-à-dire il fait des cours sur Dostoïevski, évidemment, avec le joueur, et en même temps, il fréquente les milieux interlopes, il s'encanaille, c'est un intellectuel qui fait une spirale d'autodestruction, et c'est un film absolument exceptionnel. C'est une tension dramatique formidable, et il faut aller voir avec James Caan dans le rôle principal. C'est un des grands films américains des années 70.
On a très peu de temps, mais j'en remets une couche quand même sur le livre que conseillait la semaine dernière Arnaud Vivian. Ça va te faire plaisir, Michel, qui est le livre de Noël Herp, Souvenir écran, voyage en France 2017-2018 chez Bartilla. C'est le journal qu'il a tenu pendant toute la période où il présentait de Limoges à Libourne les films de Clouseau, y compris le Corbeau, ce qui est très drôle parce que dans chaque ville, Noël Herp croise. Il y a du mal de tout, des ciné-clubs qui sont vieillots, des directeurs qui sont mesquins, du public qui est clairsemé. J'ai trouvé ça à la fois très drôle, entre Tati et Paul Léoto. Donc je recommence, Souvenir écran, Noël Herp chez Bartilla. Le conseil de Charlotte.
Une rétrospective, je vais remettre une couche sur Pedro Almodovar, puisqu'il y a 19 de ses films qui ressortent. Et une rétrospective qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas uniquement à Paris, mais qui est présentée dans énormément de villes en province. Donc il faut en profiter pour voir et revoir tous les films de cet immense cinéaste. Évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais s'il fallait en donner qu'un ou deux, je dirais quand même que Tout sur ma mère est selon moi son chef-d'œuvre à ce jour. Et puis peut-être un film plus ancien, La loi du désir, qui est le film qui fait le plus d'écho et qui est en miroir à Douleur et gloire, qui est toujours en salle.
Nicolas.
Moi, deux lectures d'été. Alors, d'une part, Question de cinéma de Nicolas Saada. Nicolas Saada, qui était journaliste au Cahier du cinéma, notamment, et sur Nova, qui depuis est devenu cinéaste avec des films, des très bons films comme Espion ou Taj Mahal, et qui là compile en fait ses entretiens et conversations avec pas mal de cinéastes, même de scénaristes et de compositeurs de musique de film qu'il a fait entre 1989 et 2001. Et c'est assez passionnant. Il y a une rencontre mythique entre Dario Argento et John Carpenter. Il y a Coppola qui préfigure l'arrivée de la vidéo du numérique. C'est assez passionnant, donc je vous conseille ça.
Et c'est chez
Question de cinéma, et c'est chez Carlotta. Et puis, je voulais aussi parler dans les bonnes lectures du livre de Michel Simon, André Kontchalovsky, Ni dissident, ni partisan, ni courtisan.
Qui est passionnant. Hein.
Qui est, moi, j'avoue que je suis très mauvais en Kontchalovsky, et alors ça m'a donné envie de me replonger dans son œuvre. Et c'est assez passionnant.
Tous ces conseils, livres et films, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Charlotte Lipinska, Sophie Avon, Michel Simon, Nicolas Chalère, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française. Il y avait, et je les remercie, Bernard Laniel, Nicolas Depagraf et Jérémy Kaufmann. La réalisation a été signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, c'est jeudi prochain, le 27 juin. Je vous attends nombreux au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacré au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.